Europe 1.
Bienvenue au cœur de l'histoire dans l'interview du vendredi. Je suis Virginie Giraud. Aujourd'hui, j'accueille le professeur émérite de la Sorbonne, Yann Le Boëc, l'un des plus grands spécialistes de l'armée romaine. Il est l'auteur de nombreux livres, dont Spartacus, chef de guerre, paru aux éditions Talendier, livre qui a été ma bible pour écrire ce récit au cœur de l'histoire sur Spartacus. Bonjour Yann Le Boëc.
Bonjour Virginie Giraud et bonjour aux personnes qui nous entendent.
J'ai l'immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui car en plus d'être un éminent romaniste, vous avez été mon directeur de thèse. J'ai beaucoup appris avec vous et je tenais absolument à vous interviewer sur la thématique de Spartacus. Mais comme vous êtes à Lille, exceptionnellement, on fera l'interview par téléphone. Et donc en écrivant mon récit sur Spartacus, je me suis heurtée à un certain nombre de difficultés. Il faut expliquer des concepts propres à un monde très éloigné d'une autre, et c'est compliqué dans le cadre d'un récit très narratif, et c'est pour ça que je voulais en reparler avec vous. Alors évidemment, tout le monde a en tête des images de péplum moderne ou ancien, mais la vision américanisée de Rome n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. Donc pour qu'on comprenne bien cette époque, je voudrais d'abord que vous nous expliquiez ce qu'est un esclave à Rome.
Alors un esclave à Rome, c'est un être humain. Ça peut être une femme aussi, un enfant, un vieillard, hein. Il n'y a pas que l'adulte. C'est un être humain qui est la propriété d'un autre être humain. Le faire mettre à genoux, debout, à quatre pattes. Mais il y a deux correctifs à cela tout de même. C'est d'abord qu'en droit romain, à la différence du droit grec, l'esclave est considéré comme un être humain. C'est un homme.
Voilà, c'est pas un objet.
Voilà. Et d'autre part, il faut bien voir que si un homme riche achète un esclave, c'est pour en attendre un service. Et donc, il est obligé d'avoir un minimum d'abord de gentillesse avec lui. Alors, ça n'empêche qu'il y ait eu évidemment un des propriétaires qui était des monstres, mais il faut avoir un minimum de courtoisie, de gentillesse avec lui. Il faut le loger d'abord, le nourrir, l'habiller. Et puis, quand on lui demande un travail, le lui demander normalement, quoi, ne pas abuser du statut d'esclave. Mais je le répète, il y a bien sûr eu des propriétaires d'esclaves qui étaient des êtres très cruels, notamment sur les très grands domaines.
Bien sûr, et puis on voit que de toute façon, le droit à l'égard des esclaves évolue et qu'ils sont de plus en plus protégés. Il y a la législation sous Claude qui interdit qu'on abandonne son esclave parce qu'il est trop vieux, par exemple.
Oui, mais en fait, cette législation en faveur des esclaves a été lente et tardive.
Alors, il y a un truc qui me frappe chez les auteurs ou les cinéastes qui évoquent l'Antiquité sans en être spécialiste. Ils mettent souvent des Noirs dans les rôles d'esclaves, un peu comme si on était aux États-Unis dans les champs de coton alors qu'on est à Pompéi ou à Rome dans le décor du cinéma. Mais les esclaves de Rome dans l'Antiquité, ils ne viennent pas vraiment d'Afrique subsaharienne.
Alors, il y a très peu de Noirs comme esclaves dans le monde romain. Évidemment, vous avez tout à fait raison, ils sont très peu nombreux, mais il peut y avoir deux origines en fait. La première, c'est celle à laquelle vous pensiez, tout le monde pense, des gens qui viennent de l'Afrique subsaharienne, mais comme le Sahara était un véritable obstacle à cette époque, il passait pour arriver dans le nord, il passait par la vallée du Nil. Donc l'Égypte était une première source. Et puis il y a une deuxième source à laquelle la plupart des gens ne pensent pas, que beaucoup de gens oublient, ce sont les oasis du sud Maghreb, au sud de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc. À l'heure actuelle, il y a encore des Noirs. Mmh. En arabe, je crois, si je ne me trompe, qu'ils les appellent les Youssif.
Et sinon, les autres localisations d'où viennent les esclaves, c'est plutôt les pays du nord de l'Europe ?
Alors, c'est de partout. D'abord, des pays qui ont eux-mêmes des esclaves, mais nous parlions à l'instant de l'Égypte. La civilisation égyptienne a ignoré l'esclavage. Sinon, ils pouvaient venir de partout. D'abord, à la suite d'une guerre. Alors, on sait que la guerre des Gaules de César, par exemple, je travaille là-dessus en ce moment, a ramené quand même beaucoup d'esclaves à Rome. Mmh. À Rome, enfin, dans l'Empire, parce qu'ils n'étaient pas dirigés automatiquement vers Rome, dans l'Empire. Et puis, il y a le commerce, tout simplement. Un marchand d'esclaves traverse la Bulgarie actuelle, qu'on appelait la Thrace dans l'Antiquité. Il achète des esclaves sur place et va les vendre à Rome, parce que le prix de l'esclave est beaucoup plus élevé à Rome qu'en Thrace. Et même parfois, il peut se conduire de manière malhonnête. Il prend des hommes libres, les capture, les attache, et va les vendre en disant « ce sont des esclaves ». Et alors si je vous prends cet exemple de la Thrace, d'un Thrace vendu libre et vendu à Rome, c'est parce que ce fut le cas de Spartacus.
Donc Spartacus était un homme libre qui a été fait prisonnier par un marchand d'esclaves et vendu comme tel, si on comprend bien la situation.
Absolument. Et quand il est arrivé à Rome, il est allé se plaindre devant. Il a eu, ça existait, hein. Il y avait un tribunal pour les esclaves qui disaient « mais non, je ne suis pas un esclave, je suis un homme libre ». Il s'est rendu devant ce tribunal en disant « j'ai été injustement réduit en esclavage, je ne suis pas un esclave, je suis un homme libre ». Et ce tribunal a été malhonnête en refusant de reconnaître sa qualité d'homme libre. Et en fait, la révolte de Spartacus est une révolte non pas contre l'esclavage en général, hein, il n'avait pas vécu au XIXe siècle, il n'avait pas lu les écrits des auteurs de cette période, c'est une révolte contre une situation personnelle et contre une injustice qu'il avait subie.
D'ailleurs, on voit que Spartacus va accumuler deux statuts, celui d'esclave et celui de gladiateur. C'était fréquent ?
C'était fréquent, oui et non. Je considère à peu près que dans une école de gladiateurs, et en fait c'est ce qu'a vécu Spartacus à Capoue, il y avait à peu près deux tiers d'esclaves et un tiers d'hommes libres. Alors évidemment, les hommes libres, c'est très étonnant. Pourquoi un homme libre va-t-il s'enfermer dans une caserne de gladiateurs ? Eh bien, tout simplement parce que, pour plusieurs raisons, d'abord, il y a le goût du risque. De nos jours, vous avez des gens qui font des courses automobiles et vous savez très bien qu'il y a des morts assez régulièrement. Il y en a qui sautent en parachute alors qu'on ne les contraint pas parce qu'ils aiment le risque. Il y a le goût du risque, il y a le goût de gagner qui rapporte de l'argent. Il y a une vie quotidienne qui, bien que le gladiateur soit enfermé dans sa caserne, n'est pas totalement désagréable. Il est nourri et si lui ne peut pas sortir, il y a des dames qui viennent le voir, qui fréquentent les écoles de gladiateurs, parce qu'elles sont sûres d'avoir des amants physiquement bien formés.
Mais d'ailleurs, on faisait des potions aphrodisiaques avec de la sueur de gladiateurs, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Mais alors justement, revenons à ces gladiateurs, parce que là encore, on a des images d'Épinal à leur sujet. Bon, alors on imagine tous des hommes très musclés, qui descendent dans l'arène, qui font des spectacles sanglants, qui meurent à chaque représentation. Mais là encore, professeur Le Boeck, on est loin de la réalité.
On est un peu loin de la réalité, effectivement, pas tout à fait. Bon, il fallait que le gladiateur soit physiquement solide et qu'il ait de beaux muscles. Mais effectivement, ils ne mouraient pas tous dans l'arène parce que tout simplement, un gladiateur avait une valeur marchande. Donc quand un gladiateur était tué, le propriétaire de l'école de gladiateurs perdait de l'argent. Et puis, bon, quand le combat était beau, le responsable, l'organisateur du spectacle, laisser la vie sauve à celui qui s'était bien battu, même s'il avait été vaincu.
Voilà, donc on ne meurt pas à chaque spectacle, effectivement. Donc dans le cas de Spartacus, bien qu'apparemment il ne soit pas mort sur scène, c'est donc qu'il devait être plutôt assez bon, il parvient à s'enfuir et il devient, c'est pas lui qui l'a voulu, mais le chef d'une armée d'esclaves en fuite. Alors quel est le but de cette armée et pourquoi les fuyards ne se sont pas tout simplement dispersés ?
Eh bien, ce que recherchaient les fuyards, c'était d'abord de fuir de l'esclavage et ensuite de fuir de l'Italie. Ils voulaient redevenir, être des hommes libres, ils ne l'étaient pas tous à l'origine d'ailleurs, être des hommes libres et puis retourner dans leur pays d'origine. Il y avait des Germains, des Thraces, des Syriens, des gens de toutes les parties de l'Empire et ils souhaitaient rentrer chez eux pour retrouver leur famille, leurs amis, le pays dans lequel ils avaient vécu, la vie quotidienne qu'ils avaient pratiquée avant d'être vendus en Italie.
Et le problème, c'est qu'on se retrouve avec une armée extrêmement nombreuse qui se déplace en groupe, qui pille forcément des champs et des villages pour pouvoir s'alimenter. Et donc l'armée romaine est obligée d'intervenir. Mais c'est quand même quelque chose d'inédit, l'armée qui intervient.
Non, ce n'est pas inédit. Il y a eu d'autres grandes révoltes d'esclaves qui ont été réprimées par l'armée romaine. C'était une de ses fonctions, Effectivement, ces esclaves pillaient l'Italie. Il fallait bien nourrir une armée qui rassemblait 100 à 300 000 personnes, hein, on ne sait pas trop exactement, mais qui était suivie par des enfants, des femmes, des vieillards. Il n'y avait pas que les combattants, hein, il y avait des civils qui les accompagnaient. Il fallait les nourrir, au besoin il fallait les habiller, parce qu'à certains moments ils se sont retrouvés dans des régions très froides. L'Italie, ça n'est pas les cartes postales avec du sable et du soleil seulement. Il y a aussi de la montagne, il y a aussi un climat très froid. Et puis, il y avait un deuxième inconvénient dans cette grande armée, c'est qu'elle donnait un mauvais exemple. Hein. Toute révolte d'esclaves est quelque chose qui doit être condamné et évité.
Donc, l'armée intervient, sauf qu'elle se fait battre plusieurs fois par les hommes de Spartacus. Les Romains vivent ça comme une humiliation. Pourquoi c'est une humiliation plus sévère que face à une armée normale ?
Eh bien, c'est une humiliation plus sévère que face à une armée normale, justement parce que ce n'est pas une armée normale. L'esclave, comme je vous l'ai dit, est considéré en droit romain comme un homme, disais-je tout à l'heure, mais c'est un homme diminué, c'est un infirme. Il y a des gens qui naissent sans bras, sans pieds, aveugles, et il y en a qui naissent esclaves. Ce qui leur manque, c'est la liberté. Ils sont privés de quelque chose, de la liberté. Donc, ils sont considérés comme des infirmes et comme des êtres inférieurs au combat. L'armée romaine vaincue par des infirmes, c'est absolument inimaginable pour le moral de ces gens-là.
Donc, au final, l'armée romaine vient à bout des hommes de Spartacus qui vont être crucifiés le long d'une voie romaine. Donc, pour nous, selon nos standards d'aujourd'hui, c'est très impressionnant, c'est même cruel. Et ça a d'ailleurs inspiré un épisode de Game of Thrones où on voit des esclaves crucifiés le long d'une route que le personnage de Daenerys n'a pas réussi à sauver dans le pays d'Estéros. Mais pour les Romains, la crucifixion n'a pas le même sens. Que représente la crucifixion de masse aux yeux des Romains ?
Alors d'abord, il faut bien voir que nous parlions tout à l'heure d'une masse d'esclaves qui approchait les 300 000 hommes, avec probablement 100 000 combattants. Il y a eu plusieurs batailles, dont la dernière a été terrible. La plupart des esclaves ont été tués. Quelques-uns ont pu se cacher dans la montagne où ils ont vécu quelques dizaines d'années. Et en fait, il y a eu seulement, si j'ose dire, hein, seulement, entre guillemets, seulement 6 000 esclaves qui ont été crucifiés entre Rome et Capoue. Alors, c'était un supplice terrible, hein, la crucifixion, contrairement à ce qu'on imagine. D'abord, les mains et les pieds n'étaient pas cloués comme on le voit sur les crucifix de la religion chrétienne. Ils étaient simplement attachés, nus, en plein air, et suivant la période, ils souffraient la faim, la soif, le froid ou la chaleur, suivant les circonstances, et ils finissaient par mourir étouffés, parce que quand ils ne pouvaient plus supporter le poids du corps et se dresser debout pour respirer, ils se laissaient tomber sur les genoux et ils mouraient étouffés, les côtes de la poitrine écrasaient les poumons.
Et oui, donc c'était une mort terrible, mais pas du tout comme on s'imagine. Merci beaucoup, professeur Le Boeck. C'est toujours un immense plaisir d'évoquer l'Antiquité avec vous. Je rappelle que votre livre « Spartacus, chef de guerre » est paru aux éditions Talendier. Au revoir, professeur.
Au revoir, Virginie Giraud.
Merci à vous tous d'avoir écouté Au cœur de l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée et si vous avez aimé, mettez-nous des étoiles et des commentaires. À bientôt.